Jérémy Renier, bonjour. Très heureux de vous retrouver à l'occasion de la présentation de votre film en tant que réalisateur, dans lequel vous intervenez également. Il s'agit de D'un monde à l'autre, film qui sort aujourd'hui même en France. Félicitations. Et prochainement donc en Belgique. Au départ, vous souhaitiez, je crois, simplement réaliser un film sur l'explorateur Loury Lang. À quel moment avez-vous compris que ce voyage en Arctique allait finalement se réaliser et devenir une sorte d'exutoire pour vous de votre propre deuil?
Non, j'étais sûr de rien. Bah déjà, j'étais même pas sûr de ramener des images. J'étais pas sûr de revenir en vie. Donc,
j'étais quand même parti avec une équipe au départ, non?
Je suis parti avec une équipe. Un tout petit capitaine qui n'a pas bougé, qui était un cadreur, qui est un ami d'enfance, chef opérateur Fabien Ruissen, que je connais depuis gamin, et en fait il m'a accompagné dans cette folie. Et il y avait un autre cadreur sur place, qui était le cadreur de Loury. Donc il y avait deux cadreurs, mais puis un troisième qui est venu juste pour la partie où on part seul sur la glace avec Loury. Et là on était seul avec lui. Mais je me suis rendu compte de pas grand chose. Je traversais ce que je traversais, ce deuil. J'étais à un endroit douloureux de ma vie, et cette proposition est arrivée à un moment où je l'ai vu comme forme de sauvetage possible, mais j'étais sûr de rien.
Est-ce que finalement c'était un besoin de fuir ou au contraire de vous retrouver après le décès de Gaspard?
Non, c'était pas fuir. C'était au contraire affronter la vie, affronter la mort.
Vous dites que ce voyage vous a appris à vivre. À quel moment avez-vous senti que ce documentaire devenait une sorte de reconstruction de vous-même?
Inconscient? Non, c'est des moments clés, mais je cherchais aussi, parce que ce film, c'est un documentaire, donc en fait, moi, j'ai dû faire avec ce qui se passait en face de moi, la réalité de la vie, et on le comprend bien dans le film, qui a plein d'enjeux, qui complique la tâche, et qui fait qu'il y a des rebondissements. J'étais sûr de rien. Il y avait des petits moments clés, le moment où il y a eu justement cette altercation entre Loury et moi, cette trahison qui d'un coup, après la trahison, le fait de se parler, je me suis dit ok, là j'ai un sujet, j'ai quelque chose en tout cas qui me touche et qui me tient à cœur, et ainsi de suite. Mais la construction du deuil, je pense qu'en fait je la fais aujourd'hui, en fait, en sortant le film. En fait, c'est là peut-être que je vais devoir dire au revoir à mon ami Gaspard, parce qu'avant, en fait, il m'accompagne depuis toutes ces années à travers ce film.
Est-ce que filmer le deuil aide à le traverser, ou est-ce une manière de continuer à dialoguer avec l'absence?
C'est par bribes. Moi, je crois au lien invisible. Je crois à... J'aime cette phrase de d'Ormesson qui dit il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des vivants dans la mémoire des vivants, de la présence, pardon, des absents dans la mémoire des vivants. Et j'aime bien l'idée que nos morts nous accompagnent, en fait, encore dans nos souvenirs, dans nos liens invisibles.
On sent que l'aventure physique devient presque spirituelle. Était-ce une quête de sens autant qu'un voyage?
Ouais, c'était les deux, ouais. Mais ouais, c'était les deux. Quête de sens et voyage, ça va souvent de pair. Hein.
Oui, vous dites, j'ai arrêté la machine à penser, je me sens mieux. Est-ce que cette paix intérieure trouvée sur la glace, est-ce qu'elle existe toujours une fois le retour à la vie normale?
Non, elle est... pendant la traversée, c'est-à-dire que ce que j'explique dans le film, c'est un moment assez bref où tout d'un coup il y a une épiphanie, un moment de d'osmose totale, de transe, mais très vite la réalité du terrain, t'as de nouveau mal, il faut de nouveau se confronter à la violence du biotope et le fait de continuer à marcher, quoi, et progresser.
Le deuil serait-il par l'action ou par l'aventure physique, ou est-ce une illusion que le film questionne?
Je sais pas. C'est sais pas si on questionne. Moi, j'ai juste, j'ai essayé d'être le plus transparent avec ce que je traversais. J'ai pas de formule. Chacun traverse comme il peut son deuil. C'est des épreuves qui traquent la vie impose. Moi, c'était ma solution à ce moment-là dans ma vie et une proposition qui m'est venue en plus de l'extérieur. On fait comme on peut, en fait, avec les armes qu'on a et ce qu'on nous propose en face.
Est-ce que vous avez eu peur à certains moments de vous dévoiler trop intimement
Oui, bien sûr. J'ai eu peur d'être impudique. C'était, il fallait trouver la bonne balance parce que je suis dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de réservé, de discret. Et là, tout d'un coup, de montrer autant, ça a été par étapes, quoi. Et j'ai dû accepter de me livrer au fur et à mesure un peu plus, quoi.
Un moment du voyage, vous dites, sous l'effet de l'épuisement, vous avez vécu une forme de d'hypnose, un instant de pleine conscience sans douleur. Quand avez-vous touché du doigt cet instant magique, hein?
Mais comme je l'explique dans le film, il y a un moment après la douleur, après l'épuisement cérébral, parce que la machine à penser est très présente dans ce milieu, parce qu'en fait il y a rien d'autre, en fait c'est un espace vide à 360 degrés et en fait à beau progresser, c'est toujours le même décor, le même paysage à droite, à gauche, derrière toi, et donc en fait il y a la tête, les pensées qui se mettent en place, et à un moment quand t'arrives à déconnecter, à oublier la douleur, la fatigue, l'épuisement et le cérébral, et là il y a eu un moment d'épiphanie, un moment de paix, ouais.
Incroyable quand même.
Mais souvent, je pense qu'il y a plein de tribus partout dans le monde, des tribus autochtones où en fait ils sont obligés de passer par des rites, souvent. En se faisant mal ou en devant traverser une douleur, ou je crois qu'il y a, hein, la douleur peut te permettre aussi de rentrer dans une forme de transe, quoi, d'arriver à transcender en fait la douleur, quoi.
Justement, est-ce qu'il y a eu des rencontres qui ont quand même été déterminante ou impressionnante, en tout cas, je sais pas, parce que peut-être chez les Inuits et
non, plein, j'ai eu plein de rencontres qui ne sont pas dans le film. Je suis arrivé avec 200 heures de rush et le film fait 1h15, donc il y a énormément de choses que j'ai mis de côté. Et j'ai rencontré les scientifiques que j'ai filmés, j'ai rencontré plein de gens, j'étais dans les universités, j'ai rencontré plein d'Inuits, et ça a été très beau à des moments très durs aussi. C'est un peuple qui souffre beaucoup, qui a souffert, qui était attaqué par la mondialisation, qui n'est pas du tout l'image qu'on peut imaginer d'un peuple autochtone hyper protégé. Ils ont c'est toutes des villes où l'alcool est interdit parce que ça a fait des ravages il y a quelques siècles et pourtant c'est il faut vouloir tellement habiter là-bas. C'était au bout du monde, c'est sur les périodes d'hiver, il fait moins 60. C'est le Far West, c'est une vie très très dure, donc ils sont tous burinés, les mains, le visage, par le froid, c'est impressionnant. C'est tous des Lourilags, ils sont tous là-bas et la vie elle est puissante, quoi, et la terre et la nature et tout le temps une forme de pas de confrontation mais elle te rappelle que ça soit le dominant, c'est elle qui domine, ouais.
Histoire des ours, c'est impressionnant quand même.
Ça a été un trauma qu'on a filmé, c'est vrai qu'il y a un plus fou parce que on se faisait attaquer, moi le cadreur se réveillait pas, donc je lui mettais des coups de pied pour qu'il se réveille Ouais, je me suis pas rendu compte du danger. Et heureusement, tout s'est bien passé malgré le danger. On a eu très froid parce qu'en fait, on est sorti de la tente pour protéger la tente, pour voir si l'ours allait nous réattaquer. Donc,
il avait accroché quand même.
Il avait accroché bien sûr, il était rentré dans le camp, hein, et il était en fait, il était attiré par la bouffe sans doute ou par notre odeur. Ils sont curieux, quoi. Et quand il s'est éloigné, après, on a dû replacer justement les piquets de sécurité. Et sauf qu'on n'était pas du tout protégés du froid, quoi. On avait juste une petite doudoune qu'on met pour dormir. Et là, en fait, t'es saisi par le froid. En quelques minutes, tu pars en hypothermie, quoi.
L'ombre de Gaspard est là, elle est omniprésente. Vous ne la prononcez pas, ni son prénom ni son nom. C'était un silence volontaire dès le départ.
Oui, j'avais déjà par pudeur, par distance, par un respect pour la famille. On traverse pas tous nos deuils à la même vitesse. Je pense que les parents de Gaspard ne l'arriveront jamais. Je pense que donc j'avais surtout pas envie de m'octroyer la douleur de cette perte. Donc j'ai pris une forme de distance. Et puis surtout aussi, j'avais envie de donner une vision universelle au deuil.
Propos.
Et pour que tout le monde puisse s'y retrouver, tout le monde se dit tiens, voilà, en fait, même si c'est une partie de moi, une partie de mon intimité, et cette perte, mais propre, j'avais envie vraiment, ouais, de d'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus large. Et donc oui, il y a pas de visage, il y a pas de nom. Il y a juste une dédicace à la fin avec juste son prénom, parce que voilà, c'était une façon de, malgré tout,
de dire qu'il était là.
Ouais, puis de, ouais, c'était une forme de quelque chose de cérémonial, de lui. J'ai pas pu lui dire au revoir. Et ça a été une grosse douleur, et donc c'était une façon de pouvoir lui dire au revoir à ma manière.
Dans les remerciements, justement, à la fin, Hugo Sélignac, normal, votre producteur, mais Marion Cotillard et Manu Payet.
Marion, elle m'a accompagné dans le montage. Elle a été un regard à un moment donné. En fait, au début, pour tout vous dire, elle faisait partie de la production. Et puis, en fait, après, elle a pas pu continuer sur le projet. Mais ça a été quelqu'un qui m'a vachement accompagné, qui m'a donné des super retours, c'était très précieux. Et Manu, c'est parce qu'il est venu faire une voix off. À un moment donné, il est passé sur une voix parce que comme on n'avait pas d'ingénieur du son, il y a des sons qui nous manquaient. Et c'était pour le clin d'œil. Parce que non, et puis Manu, j'ai deux amis dans le cinéma vraiment très 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 proches, des frères. C'était Gaspard et Manu. Voilà. Et Manu, il est venu. C'est lui qui est venu m'annoncer la nouvelle.
Dernière question, quelques mots sur la musique. Pierre Avia, qui avait déjà travaillé sur Carnivore, et le moment, elle est omniprésente, elle est un personnage finalement.
Ouais, elle devait remplir l'espace, parce que déjà, elle devait remplir un espace cérébral, comme on est dans mon introspection, à l'intérieur de moi, il fallait que ça résonne, mais j'avais envie aussi quand même laisser une sensation de silence, que c'est des endroits où l'espace est disproportionné, et le silence est très présent. La nature, voilà, on a utilisé un petit peu ce qu'on pouvait imaginer comme souffle, comme vent, les animaux. Ouais, c'est très organique. Et j'avais envie aussi un décalage qui a un rythme progressif aussi. Il y a des moments de tension aussi, parce que l'envie de ce film, au-delà d'être un documentaire, il y a aussi une vision cinématographique dans sa narration, dans sa stylisation et dans sa musique, quoi.
Très bien, un grand merci. Donc on rappelle, d'un monde à l'autre, qu'on va voir prochainement sur nos écrans. Merci.
Merci.